Quand on parle de nature sauvage, on imagine rarement l'herbe coincée entre deux bouts de trottoir, la plante de gouttière et autres végétales soudain surgies de l'immensité stérile du béton. Pourtant, il s'agit bien de nature sauvage, puisque ces petites plantes échappent à la maîtrise humaine. Et c'est sans doute pourquoi celles qu'on appelle aujourd'hui amicalement « sauvages des rues » n'ont pas toujours eu la cote. Cela fait plus de deux siècles que nos sociétés considèrent que le végétal se doit d'être ordonné, que le paysage se façonne et que la nature, comprenez ce qui ne relève pas de l'humain, doit être domestiquée. Alors on tond, on plante de l'horticole, on trie, on asperge de produits phytosanitaires et on extirpe de la terre tout ce qu'on n'y a pas planté. Une touffe qui dépasse rompt la perspective linéaire et ébouriffe la chaussée. Ça fait sale. Et voilà comment les végétaux font les frais de nos représentations. Mais n'allez pas croire qu'ils aient dit leur dernier mot. La ville ne manque pas de plantes rebelles. Prenez cette cymbalaire des murs, Cymbalaria muralis. Oui, alors on va ici introduire un peu de latin, parce que comme disait le romancier et journaliste Alphonse Caz,
la botanique, c'est l'art de sécher les plantes entre des feuilles de papier et de les injurier en grec et en latin.
Alors, faute de sécher des plantes, ce qui entre nous n'est pas toujours utile à la botanique, on se contentera ici de les injurier. Mais revenons-en à notre cymbalaire. Vous la voyez? À moins qu'elle n'ait fait les frais du grand nettoyage des rues, elle devrait être là, sur le mur. Elle forme une cascade végétale composée de tiges fines, souples et pourpres, qui rampent ou tombent selon qu'elles se trouvent sur un mur ou au sol et qui distribuent de petites feuilles arrondies présentant 5 à 7 lobes, vertes dessus, pourpres dessous. Si vous ne la trouvez pas, c'est probablement qu'elle a été coupée ou délogée. Vous la rencontrerez dans la rue d'à côté. Et cela vaut pour toutes les petites plantes qui vont suivre. De mai à novembre, elle se pare de fleurs mauves longues d'environ 8 mm, qui ressemblent à de petites têtes dont les yeux jaunes nous regarderaient au-dessus des 3 lobes inférieurs de sa corolle. Sachez tout d'abord que cette cymbalaire n'est pas venue toute seule dans les rues de Toulouse. Avant d'y être spontanée, elle y a été introduite. Très à la mode dès le 15e siècle, elle est ramenée d'Italie par de nombreux nobles d'Europe, et notamment en France pour décorer les murs et les murets des différents édifices et châteaux. C'est d'ailleurs de là qu'elle tire son petit nom, Ruine de Rome. Une fois introduite en France, où elle se trouve plutôt bien, elle finira par se disperser d'elle-même et par devenir sauvage, spontanée comme on dit en botanique. Or, il n'est pas donné à tout le monde de faire son trou en ville. La température y est légèrement plus élevée qu'ailleurs du fait des activités humaines et des matériaux utilisés. On parle d'ailleurs d'îlots de chaleur urbains. Et puis, il faut résister aux jets d'urine et pousser sur les murs et les trottoirs, d'autant que l'été en fait des supports très arides. Comme toutes les sauvages des rues, la cymbalaire des murs n'est pas là par hasard. Elle possède des caractéristiques adaptées à ce milieu. Ses feuilles sont capables d'absorber la rosée du matin et de pallier ainsi un peu le manque d'eau. Mais en ville, en plus de l'aridité, il faut pouvoir se disséminer, c'est-à-dire permettre aux graines de se disperser pour poursuivre le cycle végétal et devenir plantes. Or, les espaces y sont particulièrement petits et fragmentés, parfois séparés les uns des autres par une véritable mer de bitume. On a donc peu ou pas de continuité écologique. Difficile, dans ce cas, de trouver un humus bien gras pour pousser. Mais là encore, la cymbalaire a sa technique. Elle s'auto-sème, et pas n'importe comment. Arrivée à maturité, la plante allonge sa tige, la courbe et enfonce le fruit un peu plus loin dans la première fissure qu'elle rencontre. Elle peut donc assurer seule sa propagation et vite former de grosses grappes qui lui ont valu en Angleterre le nom de Mothers of Thousands, mères de milliers. Pour certains scientifiques, le fait que ces plantes originellement rurales puissent se développer en milieu urbain pose la question de l'évolution avec un grand E. Dans la droite ligne de Darwin, qui en passant était franchement embêté avec l'origine des plantes à fleurs, au point de parler de leur abominable mystère, les chercheurs et chercheuses en écologie évolutive soupçonnent certaines d'entre elles de muter pour s'adapter. L'écologue Pierre-Olivier Cheptoux s'est ainsi penché sur la crépite de Nîmes. Crépit Sancta est une sorte de pissenlit méditerranéen que vous reconnaîtrez avec sa rosette de feuilles découpées au sol et sa longue tige au bout de laquelle se tient une ou plusieurs belles inflorescences jaunes semblables à un pissenlit. Mais peut-être ne verrez-vous qu'une boule plumeuse au bout de la tige, formée de graines prolongées par ce qu'on appelle des pappus, des sortes de petits parachutes blancs qu'un souffle suffit à emporter. Les mêmes que sur un célèbre dictionnaire. Et c'est justement cette histoire de souffle qui intéresse notre chercheur. Si la crépite de Nîmes est très présente en ville, c'est qu'elle n'a non pas un, mais deux types de graines correspondant à deux types de dissémination distincts. Celles emportées par le vent sont de loin les plus nombreuses. Mais ici, elles ont peu de chances de trouver un sol adéquat pour germer. Alors que les autres, plus grosses et positionnées sur les côtés, sont plus lourdes et tombent directement au sol, assurant la colonisation d'un espace proche, système plus adapté aux contraintes urbaines. Or, le chercheur a pu montrer que sur 15 ans, la production de graines plus lourdes par les plantes présentes en ville était de 5 à 10% plus importante que sur celles en campagne. Ces données vont dans le sens de l'hypothèse d'une possible évolution rapide de la plante dans ce processus d'adaptation au nouveau milieu. Mais elles sont à prendre avec des pincettes. Ces recherches n'en étant qu'à leur début, et il est encore difficile à ce jour de tirer de réelles conclusions autres que l'intérêt nouveau porté au végétal en ville. Depuis quelque temps à Toulouse, il est interdit d'empoisonner les plantes avec des produits phytosanitaires. Mais la cymbalère ou la crépide, comme les autres spontanées des rues, se voit régulièrement trancher la tête par les couperbes des agents d'entretien de la voirie. Ce qui ne les empêche pas pour autant de repousser ensuite. L'idée est donc toujours de faire propre, mais cette fois, sans porter atteinte aux vivants en général. Malgré cette préoccupation nouvelle, on continue de mal connaître les petites plantes et l'on entretient le plus souvent avec elles de simples rapports de cohabitation ou au mieux de contemplation. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Les plantes ont longtemps fait partie de la vie quotidienne des humains et pas que des sorcières. Dans de nombreuses régions françaises, la cymbalère est connue pour ses propriétés médicinales, en particulier pour soigner la gale et le scorbut. Mais regardez un peu plus loin. Vous voyez ces feuilles rondes, épaisses et charnues, gorgées d'eau et sans poils, qui forment un souple chapeau chinois inversé, comme un nombril au bout d'une tige d'un vert un peu plus clair ? Peut-être avez-vous la chance de l'observer alors qu'un obélisque de clochettes blanches à verdâtre, petites fleurs en grappe, pointe vers le ciel ? À moins qu'il ne vous reste que de tristes tiges fructifiées et sèches. Quoi qu'il en soit, frémissez. Car vous êtes en présence du nombril de Vénus, ou de l'oreille d'abbé, ou du cucarello en occitan. Cette plante grasse, dont l'appellation latine est Umbilicus rupestris, se récolte d'octobre à mars, quand elle ne fait pas de fleurs. Tendre, ses feuilles ont un goût de concombre juteux, très rafraîchissant malgré une texture un peu gélatineuse. Au Moyen Âge, le nombril de Vénus entrait dans la composition des philtres d'amour. Mais bon, ces feuilles sont surtout utilisées pour leur qualité diurétique et pour cicatriser les plaies ou calmer les brûlures. Si les plantes constituent de précieuses ressources, elles s'appuient elles aussi sur les services des autres règnes du vivant et notamment le règne animal. Que l'un de ses représentants mange un fruit et il deviendra malgré lui le propagateur d'une graine qu'il disséminera, participant ainsi à l'entreprise de la conquête de la plante. Il en va de même des insectes, venus soutirer le nectar et qui se retrouvent instruments de la pollinisation. Pourtant, on l'a vu, les plantes ne dépendent pas forcément des animaux. Certaines, comme le nombril de Vénus, sont tout à fait capables de s'autoféconder. On croit toujours que les plantes sont des victimes passives, dociles et conciliantes, incapables de s'enfuir et de se faire entendre. Mais le monde végétal s'inscrit dans un réseau complexe d'interactions, avec ses compagnonnages, ses parasites, ses ruses et ses métamorphoses. Et tout ça se passe en bas de chez vous, les pieds dans le bitume.